Bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je voudrais dire quelque chose aux Québécois. D'abord, je veux vous dire que je comprends que certaines soient stressés. C'est normal parce que habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Les aînés reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Je sais qu'il y a des travailleurs qui ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent, est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? Donc, c'est normal d'être stressé. On va s'occuper de ces problèmes-là autant que possible dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. C'est éviter de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. Donc, je vous comprends de vivre des situations stressantes. C'est juste normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, c'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours. Là, c'est temporaire. Puis plus on va agir avec force, plus vite on va pouvoir sortir de la situation. Donc, le bilan de la journée, on a maintenant 1013 cas confirmés, une augmentation de 385. On a 67 personnes hospitalisées, une augmentation de 22. 31 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 11. Et on reste toujours à 4 décès, donc aucune augmentation. 2500 personnes qui attendent les résultats d'un test au cours des deux prochains jours, 12200 déjà qui ont reçu un test négatif. Bon, je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier pour fermer tous les commerces, toutes les entreprises qui n'offrent pas des services ou des biens essentiels. Je veux dire aux dirigeants d'entreprise, aux entrepreneurs, que je comprends votre frustration. On a eu beaucoup d'appels hier. On est en train d'ajuster la liste et, entre autres, je pense à certaines entreprises manufacturières comme les alumineries. Je comprends très bien qu'il faut garder une certaine activité minimum pour que ces usines-là puissent repartir le 14 avril. Donc, on comprend ça puis on accepte ça. Donc, je veux juste vous dire, là, je comprends que plusieurs sont frustrés, mais en même temps, c'est important de répéter pourquoi on fait ça, pour protéger la vie de beaucoup de personnes. Donc, ce sont des mesures qui sont dures pour les entreprises. C'est certain que ça va faire mal à l'économie, ça va faire mal aux entreprises. On va s'occuper autant que possible des entreprises par la suite. On va regarder avec certaines compagnies manufacturières les activités minimums que vous pouvez garder pour être capable d'être prêt à repartir quand ça va être le temps de repartir. Hier soir, j'ai eu une conférence téléphonique avec M. Trudeau et avec les premiers ministres des autres provinces. Je suis intervenu sur trois sujets. Premier sujet, j'ai répété à M. Trudeau que la priorité des priorités, c'est l'équipement médical. Surtout l'équipement pour faire des tests. Il faut être certain qu'on ait assez d'équipement dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour continuer, pour faire plus de tests auprès des personnes. Ça, c'était le premier sujet. On travaille ensemble sur les approvisionnements. Deuxième sujet, parce qu'on a beaucoup de questions, les chèques d'assurance-emploi qui seront donnés à ceux et celles qui ont perdu leur emploi, incluant les travailleurs autonomes, qui habituellement n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, qui là vont avoir le droit à un montant. Bon, M. Trudeau me dit que les chèques vont être disponibles le 6 avril. Ça, c'est dans deux semaines. On est en train de regarder de notre côté, du côté du gouvernement du Québec, ce qu'on peut faire pour les personnes qui vont avoir besoin de liquidités avant le 6 avril. Je comprends là qu'il y a le 1er avril, il y a la nourriture à acheter, donc certaines personnes ont perdu leur emploi, n'ont pas de montant d'accumulé, donc on travaille là-dessus. Bon, le troisième sujet que j'ai abordé avec M. Trudeau, c'est la loi fédérale sur les mesures d'urgence. Bon, j'ai dit à M. Trudeau que selon moi, c'est prématuré d'adopter cette loi-là. Et j'ai dit à M. Trudeau que dans tous les cas, c'est important que le Québec garde toute la flexibilité, puisse choisir rapidement toutes les mesures qui sont appropriées à la situation du Québec. Je comprends que dans une situation idéale, on pourrait prendre le temps de tout uniformiser dans toutes les provinces, mais la situation est différente d'une province à l'autre. Puis je pense que c'est important que le Québec garde toute la marge de manœuvre, toute la flexibilité pour mettre en place des mesures rapidement. Donc, c'est ce que j'ai dit à M. Trudeau. Maintenant, je reviens aux consignes de base. Là. Peut-être qu'il y a des gens, j'ai vu ça sur les médias sociaux, qui avaient peut-être, c'est moi qui s'est probablement là, mal exprimé, donc je vais être très clair. Tous ceux qui ne travaillent pas dans les services essentiels doivent rester à la maison. Ça, c'est clair. Mais ils peuvent sortir, un, bien sûr, pour aller chercher de la nourriture, deux, aider des personnes de 70 ans et plus à aller chercher de la nourriture pour eux autres, pour les personnes de 70 ans et plus. Et c'est possible d'aller prendre une marche aussi. C'est même bon pour la santé, bon pour le moral. Il faut juste rester à 2 mètres. Ceux qui ont les anciennes mesures, là, c'est 6 pieds, ça, 2 mètres des autres personnes. Mais vous pouvez aller prendre une marche. Il y a une restriction dans les résidences de personnes âgées où on demande, quand vous sortez, d'être supervisé. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des personnes qui habitent des résidences de personnes âgées qui ont peur quand ils voient d'autres résidents sortir. Ils ont peur que ces personnes-là ramènent le virus dans la résidence. Donc, c'est pour rassurer tout le monde qu'on dit à partir de maintenant, être supervisé si on fait des sorties. L'autre point qui est important de mentionner, c'est pas le temps de faire des soirées, des soupers avec votre beau-frère, votre grand-père, vos amis, c'est pas le temps. On se reprendra une fois que ça sera fini, mais là, c'est pas le temps de faire ça. C'est la pire chose qu'on puisse faire. Je termine en encore une fois, remerciant tous les Québécois. On voit qu'il y a beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi où ils peuvent aller aider. Et Jean Boulay est en train de préparer un site web, un portail web, où on va pouvoir mettre dans chaque région les organismes qui manquent de bénévoles, puis où les gens qui veulent être bénévoles vont pouvoir s'inscrire. Donc, on devrait, au cours des prochains jours, être capable de mettre ça en place, là, donc très rapidement. Puis, bon, c'est impressionnant de voir toute la solidarité des Québécois. Puis moi, je vous remercie. Puis je termine avec la même phrase que je répète depuis le début. Plus vite on va réduire les contacts physiques, plus on va réduire la contagion, plus on va sauver des vies, puis plus vite on va revenir à une vie normale. Donc, je vous remercie infiniment pour votre grande collaboration. Je compte sur vous et, comme le dit un organiste, là, ça va bien aller.
Voulez-vous dire quelques mots en anglais ou on passe aux questions maintenant?
Oui, une chance là.
Alors, c'était François Legault, évidemment. Dans un instant, il va prendre les questions. Là, il fait son petit laïus en anglais. Je suis toujours en compagnie de Julie-Christine Gagnon, notre journaliste Cogeco. Ouais, grosse augmentation.
On a franchi le cap des 1000 cas. Là, on a 1013 cas confirmés. C'est une augmentation de 385.
Ça, c'est quasiment, par rapport à hier, c'est une augmentation, grosso modo, c'est 50 % de plus.
On fait davantage de tests,
ouais, ouais.
Mais il y a de la contamination communautaire, on le sait maintenant.
Ouais.
On parle de 67 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 22, 31 personnes aux soins intensifs, c'est 11 de plus.
Ouais.
On demeure à 4 décès.
Oui, ça, c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Honnêtement, là, il y a bien des pays dans le monde là, qui nous envieraient d'avoir 4 décès. C'est 4 de trop, là, mais je veux dire, regarde. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos malades, là, ceux qui sont aux soins intensifs, là, ceux qui sont hospitalisés, ils reçoivent des sacrés bons soins. Là. Ça commence en français.
Monsieur Legault, est-ce que vous comptez imposer des amendes à ceux qui ne respecteraient pas les consignes entreprises et individus?
On n'est pas rendu là. On compte sur la bonne foi. Les policiers sont là pour informer tout le monde, que ce soit des individus, des entreprises. Donc, moi, je compte sur la bonne foi de tout le monde pour le plus de temps possible.
Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en garde partagée?
Bon, j'ai abordé le dossier. C'est pas simple, mais j'ai le goût de vous répondre ce que le docteur Arruda me dit. Le parent qui est le plus sévère, c'est peut-être celui qui devrait garder les enfants. Mais il faut, peu importe, là, que les enfants... Idéalement, c'est que l'enfant reste avec le même parent. Mais je peux comprendre qu'il y a des parents qui veulent voir leur enfant. C'est juste important de respecter les consignes. Donc, toutes les consignes du docteur Arruda, il faut les respecter. Je ne sais pas si vous voulez
oui, peut-être, me redire ce que dans les faits, je vous disons un exemple, là, puis... N'oubliez pas que la question est en fonction des principes. Hein, des parents dont les enfants se déplacent d'une place à l'autre, mais qui vont surveiller ce qui se passe de la même façon, c'est moins problématique que si jamais on vient. Vous savez, des fois, nous autres, les gars, on est moins sévères. Là, on pourrait dire, il est sorti ce soir, il est allé à un party, puis bon, je vais pas. Pourriez-vous donner un exemple? Là? Moi, je serais plus sévère que ma conjointe, d'ailleurs, ça, c'est différent, mais ça dépend des personnes. Alors là, c'est une question de jugement. Puis je pense que c'est une question aussi que les parents peuvent gérer entre eux. Il n'y a pas de recette miracle. Vous savez, des pandémies comme ça, on n'en a pas vécu, puis on n'a pas fait des études d'analyse. Puis je pense qu'il faut aussi, les gens sont assez intelligents, à mon avis, pour comprendre. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faudrait pas que le jeune à un endroit aille un party, qu'il revienne la semaine d'après chez sa mère, puis contamine la mère, puis la grand-mère, si la grand-mère vit avec la mère. Je pense qu'on se fie au bon jugement des personnes.
Maintenant, Alain Laforêt, TVA.
Bonjour à vous. Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes dans le réseau de la santé. Vous en êtes conscient. Vous êtes sûrement débordé de courriels. Ce qu'on dit, c'est que les consignes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, d'un centre hospitalier à l'autre, entre autres pour les masques, les fameux masques N95 qui protègent le mieux. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour toutes les régions?
Oui, il y en a assez. Pour toutes les régions, on revise à chaque jour. Et les consignes sont transmises à toutes les régions, à tous les établissements du Québec. Ce sont les mêmes consignes et il y a un groupe qui travaille là-dessus à chaque jour et ça doit être uniforme. Il y a des rappels. Le sous-ministre est en lien avec l'ensemble des PDG tous les jours. Alors, et évidemment, là, vous savez ce que c'est, hein? Il faut vraiment s'assurer que c'est bien implanté partout. Puis les questions qu'on a actuellement, c'est normal. On les résout d'ailleurs. Hein? Il y en a eu au niveau de l'urgence, un protocole là, qui a été revu hier complètement. On a donné des nouvelles instructions à travers tout le Québec. Il y a un protocole qui est en train d'être revu au niveau de l'ophtalmologie, des ORL. Ça se fait maintenant à la vitesse de l'éclair. Mais moi, je veux vous dire quelque chose par rapport aux travailleurs de la santé, avec les consignes qu'on donne pour la population. Moi, je pense que les travailleurs de la santé ont besoin de sentir l'appui de la population. Et l'appui de la population, c'est que chacun d'entre nous, on fasse la distanciation sociale et qu'on se lave les mains et que les travailleurs de la santé sentent que la population est derrière eux, qu'on leur envoie des messages dans ce sens-là en faisant exactement ce que notre directeur national de la santé publique nous demande de faire. Mais pour ce qui est de la protection des travailleurs de la santé, moi, je peux vous assurer qu'on y voit tous les jours et toutes les heures du jour.
Justement, dans les urgences, vous nous dites que les protocoles ont changé. Une des inquiétudes qui a été partagée, entre autres, par le président de l'Association des urgentologues, c'est de dire qu'il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet. Est-ce que vous avez l'intention de resserrer les règles pour l'accueil des gens dans les centres hospitaliers?
C'est clair qu'on a eu des discussions justement aujourd'hui là-dessus, là, que toute personne qui se présente dans une urgence, qui a des symptômes infectieux, hein, de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, de la gastro, elle doit recevoir un masque qu'elle va porter, elle doit se laver les mains. Alors ça, c'est uniforme à travers le Québec, et on s'assure et on a ce qu'il faut en termes de masques chirurgicaux pour donner ces masques au personnel, certainement, mais aussi aux patients qui arrivent avec des symptômes infectieux.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, M. le Premier ministre, M. Arruda, Mme McCann. Il y a une personne qui m'écrit qui est aux prises avec la COVID-19, qui fait partie des mille quelques cas là, qui ont été identifiés, qui est à la maison avec des symptômes, fait de la fièvre, migraine, etc., perte d'odorat, tout ça, là, tous ces symptômes-là, mais elle s'inquiète de ne pas avoir de suivi. Personne ne l'a appelé, il n'y a pas d'infirmière qui l'appelle, pas de médecin qui va la voir ou quoi que ce soit. Quel est le suivi auquel les personnes qui sont à la maison, identifiées avec la COVID-19, porteurs de la COVID-19, quel est le suivi qu'on fait chez ces gens-là?
Bien, écoutez, il faut comprendre que quand on les retourne à la maison, c'est qu'au moment où ils sont évalués, ils n'ont pas nécessairement de besoin d'être hospitalisés. Par contre, si leur état clinique se détériore, ils doivent rappeler pour être en mesure. Parce que c'est sûr que, voyez-vous, une chose en termes de suivi, là, il n'y a pas nécessairement de traitement, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médication spécifique. Les gens peuvent peut-être prendre des médicaments pour avoir moins mal à la tête, etc. Mais si leur fièvre se détériore, au moindre, je dirais, symptôme, là, je vais vous le dire, puisque je pense, imaginez-vous, si on fait un suivi, on vient le matin, ça va bien, puis le soir, ça va moins bien. Il faut que ces gens-là téléphonent pour être pris en charge, pour avoir une réévaluation. Parce que j'imagine que l'infirmière viendrait tous les jours puis qu'elle constaterait la même chose, mais que c'est dans la nuit que ça se passe. Le message à dire aux personnes, c'est que si vous n'êtes pas bien, si vous vous détériorez par rapport à la situation antérieure, bien, vous appelez pour être réévalué.
Mais je réitère aussi ce que j'ai dit il y a quelques jours, que nos médecins dans les cliniques médicales sont par téléphone de plus en plus, hein, et même par téléconsultation. Alors, ces personnes-là, s'ils ont un médecin, ils peuvent l'appeler pour s'ils ont des inquiétudes, hein. On va leur répondre. S'ils n'ont pas de médecin, ils peuvent appeler une clinique dans leur voisinage. Alors, on ne les laisse pas là en plan. Elles ont la possibilité certainement d'appeler leur médecin, leur clinique ou une clinique dans leur voisinage. On va leur répondre.
Deuxième question, je me fais le porte-parole de gens qui travaillent dans la santé. Ça rejoint un peu ce que disait Alain tout à l'heure. Je vous lis un courriel qu'on m'a envoyé. Je suis infirmier dans un hôpital de la région de Montréal et je parle au nom de mes collègues. On est tanné que le premier ministre nous appelle ses anges sans nous donner davantage d'équipement. On manque de masques, de longues jaquettes, de bonnets. Et on veut aussi savoir s'il y aura une augmentation de salaire ou des primes de risque. Merci de bien communiquer mes questions au premier ministre. Et la personne s'est identifiée, soit dit en passant. Ce n'est pas un inconnu. Là. Alors, est-ce qu'il va y avoir des primes et est-ce qu'on va les assurer d'avoir les bons équipements?
Bon. Deux choses. D'abord, à chaque matin, une de mes premières questions à l'équipe là, de la santé, c'est est-ce qu'on manque d'équipement? Puis la réponse, c'est non. Donc, est-ce que les consignes sont bien appliquées partout? Peut-être avoir des exceptions, mais notre intention, c'est que tout le personnel soit protégé avec tous les équipements nécessaires. Maintenant, pour ce qui est d'une prime en argent, il y a des discussions qui ont lieu actuellement avec les syndicats. Et ça fait partie des discussions, mais il n'y a rien conclu pour l'instant.
Merci, Marco Bellaire. Cyrino, Le Devoir.
Oui, bonjour. Dans la foulée des questions de mes collègues, Mme McCann, quel est le nombre de travailleurs qui ont été infectés par la COVID-19 en milieu hospitalier, donc des professionnels de la santé, et pourquoi avoir rehaussé à ce moment-ci les protocoles de protection du personnel dans les urgences et le dépistage des patients?
Bien, écoutez, le nombre de travailleurs de la santé, là, moi, à ce jour-là, il y a quatre professionnels de la santé là, qui ont été infectés, mais qui ont été infectés suite à des voyages. Alors, je n'ai pas connaissance qu'il y a d'autres travailleurs de la santé qui ont été infectés. Par rapport à le rehaussement, en fait, ça fait partie des bonnes pratiques hein, au niveau des maladies infectieuses, mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on diffuse le message de façon très, très importante pour que tous les établissements fasse ces mesures-là, hein, qui est, par exemple, le port de masque quand on est à l'urgence ou quand on arrive comme patient avec des symptômes infectieux. C'est sûr que là, dans la situation actuelle où on a un virus, où est-ce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il faut absolument qu'on rehausse ces méthodes de protection et on est prêt à le faire.
Très bien. Docteur Arruda, si vous me le permettez, hier, vous avez laissé entendre, ainsi que le premier ministre, que la crise pourrait être plus graves en raison des relâches qui sont plus hâtives ici au Québec que dans le reste du Canada, selon le scénario le plus probable. À quel moment on serait au point culminant de la crise? Et, M. Legault, je comprends que c'est peut-être une question difficile, mais en fonction des informations que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir annulé les semaines de relâche, les voyages à l'étranger?
Bien, je peux peut-être commencer là, en disant, rappelons-nous, quand il y a eu la semaine de relâche, on n'était pas dans la situation qu'on est actuellement. Notre semaine de relâche, il faut comprendre qu'elle était avant celle de l'Ontario. Donc, est arrivé au mauvais moment. Quand les gens ont commencé à revenir de la semaine de relâche, c'est là qu'on a commencé à mettre des mesures plus fortes. Donc, je pense pas qu'on puisse dire qu'on regrette quoi que ce soit. Même au contraire, je pense que toutes les mesures qu'on a prises, là, incluant, par exemple, la fermeture des entreprises non essentielles, je pense qu'au Canada, on est la province qui en a fait le plus. Donc, on gère ça. Maintenant, c'est pas pour rien qu'on a dit 3 semaines, c'est que on espère que c'est la période pendant laquelle on va être capable de commencer à avoir une stabilisation.
Si, la semaine de relâche, c'est pas le problème, c'est les voyages. Si, parce que dans les fêtes, si tous les Québécois avaient pris leur semaine de relâche au Québec, puis ne seraient pas allés à l'extérieur, en France, en Italie, là où les affaires sont apparues après même que les semaines de relâche arrivent, on n'aurait pas eu de problème. C'est l'introduction du virus qui est arrivé par les gens qui ont été exposés ailleurs, qui sont tombés malades ici, ou même qui ont eu des symptômes en rentrant. Donc, la seule affaire, c'est que notre timing, avant qu'on ferme les frontières, on avait déjà des gens qui étaient à l'extérieur. Comprenez-vous? Alors qu'ailleurs, leur semaine de relâche étant plus tard, les frontières ont été fermées plus tôt, les transports ont baissé. C'est un phénomène sur lequel on ne peut pas revenir. Maintenant, de toute façon, il sera introduit ici, ou d'une façon ou d'une autre, éventuellement, parce que ça va faire le tour du monde. Notre objectif, par ces mesures intensives qu'on a prises puis qu'on met en place maintenant, n'oubliez pas, c'est d'aplatir la courbe. Parce que je ne peux pas vous dire, selon les mesures qu'on met en place, selon les mesures qu'on va continuer à mettre en place pour éviter les expositions, bien, on va avoir à ce moment-là l'aplatissement de cette courbe-là. Et donc, le pic, parce que n'oubliez pas, le pic, ce qu'on veut éviter, c'est si on avait une capacité illimitée de traiter le monde, illimitée, là, on a de la capacité, là, comme aucun pays a dans le monde, bien, on dirait, bon, on va passer à travers, on va traiter le monde, puis surtout qu'il n'y a pas de médicaments, mais même en retardant, peut-être des médicaments nouveaux vont arriver. Le vaccin, c'est un peu plus compliqué, mais notre connaissance va être meilleure pour la thérapie des personnes. Donc, on est tous gagnants au point de vue clinique, au point de vue de société. Et je vais le répéter, notre traitement populationnel que j'ai prescrit à tout le monde va fonctionner en autant que chacun fasse son effort. C'est comme si, je vous l'ai dit, la dose est partagée par tout le monde. Si 40 % de la population ne le fait pas, bien, j'ai pas l'efficacité que je suis posé d'avoir. Et c'est difficile. Ça change beaucoup de choses. Ça a changé ma vie. Ça change la vie de tout le monde. Je ne vais plus à Montréal actuellement. Je suis ici. Je ne peux pas me permettre de contaminer qui que ce soit autour de moi. Donc, ça demande un effort. Mais on peut le faire. On peut se donner cette pause-là. Et donc, il faut juste le faire adéquatement et comprendre pourquoi on le fait.
Charles Lecavalier, Le Journal de Québec.
Le gouvernement fédéral, c'est l'approvisionnement médical. Il nous en reste pour combien de jours, semaines actuellement? Là?
Quelques semaines, mais on pense que la crise va durer plus que quelques semaines. Donc, il y a des commandes qui sont passées. Il faut voir maintenant si les commandes vont être respectées, qui viennent des États-Unis, de l'Europe ou de l'Asie. Donc, c'est important là, que le gouvernement fédéral donne un coup de main pour s'assurer qu'après ces quelques semaines, on va continuer d'avoir tous les équipements nécessaires.
Vous avez parlé hier brièvement de la situation des déménagements, mais là, il y a plusieurs personnes qui ont livré des témoignages depuis. Là, les locataires, selon la loi, ne peuvent pas empêcher des visites dans leur appartement. Il y a des gens qui ont acheté une maison qui ne sont pas encore passés devant le notaire. Il y a des gens qui doivent déménager dans une autre région alors que vous demandez d'éviter les déplacements. Donc, est-ce que vous pourriez faire le point sur les déménagements en ce moment puis dans le futur en juillet?
Bon. Là, on dit on fait une pause pour 3 semaines. Donc, dans un monde idéal, là, il n'y en a pas de visite de logement pendant ces 3 semaines-là. Il y a des lois qui permettent aux propriétaires de pouvoir faire visiter leur logement, mais là, je demande à ces propriétaires-là de ne pas faire exprès. Donc, autant que possible, qu'il n'y ait pas de visite de logement dans les 3 prochaines semaines. Mais on est conscient du problème. Vous avez vu, les déménageurs sont dans les services essentiels. On sait ce qui va se passer le 1er juillet, peu importe où on sera rendu. Mais là, pour les 3 prochaines semaines, s'il vous plaît, pas de visite de logement.
Hugo Pilon-Larose, La Presse.
Alors, c'était François Legault, donc, accompagné de Horacio Arruda et de Daniel Mécan. Ça se continue. Encore une fois, Julie-Christine Gagnon va continuer à l'écouter pour nous. Si jamais il y a quelque chose de très important qui se dit dans les prochaines minutes, on reviendra en onde pour vous en parler.